Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Le chef de l'État annonce l'avènement d'une nouvelle constitution dès 2025, adaptée selon lui aux réalités congolaises. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit dans son adresse à la population hier à son arrivée à Kisangani. Ce projet est inopportun pour la société civile et farouchement contesté par la plateforme politique Lamuka de Martin Fayulu. Pour Lamuka, l'actuelle constitution a cimenté l'unité du peuple congolais. La province du Haut-Katanga vient d'enregistrer ses tout premiers cas de monkeypox, annonce hier de la ministre provinciale de la Santé par intérim. À l'occasion, Valérienne Mumba donne les symptômes et le mode de contamination de cette maladie tout en appelant la population à la vigilance. Et puis, province du Maniema, la société minière Punya KCC Mining vient de réhabiliter l'aérodrome de Basenge dans la commune rurale de Punya. Information livrée par le directeur général adjoint de cette société, Serge Mushigo, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. L'actualité reste marquée par le séjour à Kisangani du chef de l'État depuis hier. C'est pour une mission d'itinérance. Dans son adresse à la population sur la place de la Poste au centre-ville, Félix-Antoine Tshisekedi a abordé différents sujets, à savoir les infrastructures, la sécurité, le social, l'économie ainsi que la politique. Sur ce dernier sujet, le président de la République a annoncé l'avènement d'une nouvelle constitution dès l'année prochaine. Voici un extrait de l'adresse du président Félix-Antoine Tshisekedi, propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Par exemple, la disposition relative au mandat présidentiel qui le limite à deux. Son changement ne peut se faire que par le seul peuple congolais. Cela ne concerne pas le président de la République. Mais lui peut demander au peuple de pouvoir se prononcer là-dessus afin de l'améliorer. Voyez par exemple pour la forme du gouvernement. Voyez par exemple pour la formation du gouvernement. On m'a investi le 20 janvier 2024, mais le gouvernement n'a été formé qu'au mois de juin. Ce n'est pas normal. Également le problème des gouverneurs de province et des assemblées provinciales qui sont tout le temps à couteau tiré. Beaucoup de nos provinces sont bloquées et le peuple congolais est délaissé. Ce sont des dispositions pareilles qu'il faudra réexaminer pour les améliorer.
En réaction au projet du chef de l'État pour la rédaction d'une nouvelle constitution pour la RDC, la société civile, ce projet est inopportun. Déclaration de Jonas Tshombela de la nouvelle société civile congolaise. D'après lui, le pays vit sous l'état de siège, ce qui ne permet pas de changer ou modifier la constitution. Jonas Tshombela l'a dit à Askenzi Biataoro.
Ce qu'on n'a pas pu dire à la population, quand on change la condition, c'est qu'on remet tout à zéro. Donc les compteurs seront à zéro. Qu'est-ce qui va changer au quotidien du Congolais lorsque la condition sera changée? La raison avancée ne tient pas parce qu'elle a été faite par les étrangers et que ce n'était pas notre constitution. Mais celui des PES qui a combattu la révision de la constitution avec le président Joseph Kabila qui a tenté de changer. C'est aujourd'hui lui des PES qui revient à la charge de changer la constitution. Nous pensons que la constitution est changeable, ce qui est vrai, mais le moment choisi par l'UDPS, au terme de l'article 219 de la Constitution de la République, on ne peut pas changer la constitution pendant la guerre. Le pays est en guerre. On ne peut pas changer la constitution pendant l'état de siège. Le pays est sous état de siège. Qu'est-ce qui changera au quotidien du Congolais lorsque la constitution sera changée? Nous pensons que le moment choisi par le chef de l'État pour annoncer cela, le détourne de vrais problèmes des Congolais. La priorité des Congolais, c'est la sécurité, c'est l'intégrité du pays, c'est l'arrêt avec le pillage de nos richesses qui est organisé dans les territoires sous occupation. C'est ça la priorité des Congolais.
Autre réaction, c'est celle de la plateforme politique Lamuka de Martin Fayulu. Cette plateforme s'oppose farouchement à ce projet de rédiger une nouvelle constitution pour la RDC telle qu'annoncée par le chef de l'État. Selon Prince Epenge, porte-parole de Lamuka, l'actuelle constitution a cimenté l'unité du peuple congolais. Autant le peuple avait dit non à sa modification sous le règne de l'ex-président Joseph Kabila, il en sera autant sous le pouvoir de Félix Tshisekedi, affirme Prince Epenge. Propos recueillis par Askenzi Biataoro.
Monsieur Tshisekedi fait du changement de la Constitution sa priorité au détriment des vraies questions prioritaires auxquelles il faut donner solution. La constitution qu'il tente péniblement de vilipender a cimenté l'unité de notre pays par voie référendaire. D'ailleurs, son père, Étienne Tshisekedi, docteur en droit, n'avait-il pas presté serment sur la même constitution? Nous espérons que Félix assumera jusqu'au bout les conséquences désastreuses de son aventure. Le peuple avait dit non à la modification ou au changement de la constitution sous Joseph Kabila. Le peuple est prêt à dire non au changement de la constitution ou à sa modification sous Monsieur Félix Tshilombo. Félix donne une raison pour appliquer l'article 64.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, la province du Haut-Katanga vient d'enregistrer ses tout premiers cas de la variole de singe, annonce faite hier mercredi par la ministre provinciale par intérim de la Santé. À cette occasion, elle a donné les différents symptômes et autres modes de contamination et aussi appelé toute la population à la vigilance pour lutter contre la propagation de cette maladie. On écoute Valérienne Mumba Kiboko, ministre provinciale par intérim de la Santé dans le Haut-Katanga, propos recueillis par Jean Gandou.
Notre province du Haut-Katanga vient de notifier 2 cas confirmés. Pour nous protéger contre cette maladie, le gouvernement provincial recommande d'éviter tout contact physique ou sexuel avec toute personne qui présente les signes de mpox ou toute autre excrétion ou liquide provenant des personnes malades. Éviter tout contact direct avec un animal domestique ou sauvage malade ou son produit. En cas de contact avec une personne malade ou un animal suspect de mpox, lavez-vous immédiatement les mains avec du savon ou de la cendre, puis rendez-vous au centre de santé le plus proche. Évitez la manipulation des corps des malades décédés suite au mpox et pour la prise en charge des malades qui souffrent de mpox, le gouvernement provincial garantit une prise en charge gratuite dans les hôpitaux généraux de référence des 27 zones de santé situées dans les communes et territoires de notre province.
La ministre n'a pas donné l'âge ni le sexe, encore moins les zones de santé où ces 2 cas ont été enregistrés. Le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, exprime la volonté du gouvernement de viabiliser les centres de formation professionnelle en vue de relever leur niveau. Il l'a fait savoir hier lors du briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et médias à Kinshasa. Le ministre Marc Ekila encourage également les jeunes à s'adonner aux formations professionnelles en vue d'accéder facilement à l'emploi et participer au développement de la société. Marc Ekila, dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Comme le profil des experts aime le dire, nous voulons vraiment dans la formation professionnelle assurer l'adéquation formation-emploi. Mais moi je parle de plus en plus d'une bonne corrélation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire, tu viens de l'école, on te met dans l'entreprise, directement tu n'as pas de questions à poser. Parce que d'où tu viens, tu es déjà dans les conditions, tu travailles. Mais d'une manière générale, le président nous a instruit, dès la 3e réunion du Conseil des ministres, de mener une réflexion pour parler de la gratuité de la formation professionnelle dans mon pays. C'est une affaire de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait instaurer un cadre de communication, un cadre de contact qui est la foire de la formation professionnelle, où là-dedans, vous avez les professionnels de la formation professionnelle qui vont animer les panels, les partenaires techniques, les bienfaiteurs que nous appelons les sponsors et aussi les consommateurs de la main-d'œuvre. C'est pour susciter l'intérêt. Comme je disais, la plupart des jeunes n'ont pas d'informations sur la formation professionnelle.
Notez que le ministre de la Formation professionnelle lance son appel au même moment que son ministère lance la foire de la formation professionnelle dans la concession de l'Institut national pilote des sciences infirmières dans la commune de Kasavubu. Et puis, la RDC dispose désormais d'un annuaire numérique et alphabétique de tous les agents de la fonction publique. Le document a été remis au chef de l'État mardi soir par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Pour Jean-Pierre Liaou, ce travail est l'aboutissement du processus d'identification biométrique au niveau des services centraux à Kinshasa et des divisions urbaines, mais aussi les 145 territoires. Explication Ronéline Tibonera.
Ces fichiers de référence, tels que présentés par le vice-premier ministre de la fonction publique, visent à maîtriser les effectifs et la masse salariale au pays. Il comporte pour Jean-Pierre Liaou un triple enjeu, stratégique, économique et social, pour mettre en place une administration publique au rendez-vous du rendement, de l'efficacité et du résultat. Cette détermination est perceptible à travers le résultat de l'opération d'assainissement de la fiche des paies des bases débutée depuis le mois d'août 2024. Selon les chiffres communiqués par ces ministères, un peu plus de 13 600 agents de l'État ont été écartés de la liste des paies. Il s'agit pour la plupart des personnes ayant abandonné leur poste, celles qui sont passées du régime général au particulier, celles qui sont décédées en cours des carrières, sans oublier le fraudeur. Grâce à ces travaux exécutés conjointement avec les différents responsables des services, le ministère de la fonction publique a réussi à mécaniser au quatrième trimestre de l'année en cours plus de 16 000 agents jadis non payés. La liste est complète des 16 454 agents mécanisés au trimestre 4 de l'année en cours est à consulter via le portail de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.cd.
Dans l'actualité aussi, à Kinshasa, le complexe scolaire Kimbuta dans la commune de Kasavubu a vibré aux couleurs des Nations Unies hier mercredi. C'est dans le cadre des activités de la semaine dédiée à l'ONU. Une centaine d'adolescents, pré- et finalistes du secondaire, ont ainsi été initiés au travail des agences onusiennes et à leurs droits fondamentaux. Qu'ont-ils appris concrètement? Quel est le rapport entre cette journée et la jeunesse? Réponse dans ce reportage de Miradim Fouengi.
Au cœur des échanges, le droit de l'enfant, avec un accent particulier sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels en milieu scolaire et familial. Certains élèves qui ont pris part à cette activité expliquent en quoi cette journée a été bénéfique pour eux.
J'ai compris que quand je suis agressée par un professeur ou par mon collègue de l'école, je ne dois pas garder l'information pour moi-même.
J'ai compris beaucoup de choses, donc ça m'a rajouté un plus de ce que je ne savais pas, donc concernant les abus et les harcèlements et tout. Il faut le dénoncer, bon j'ai rajouté un plus. J'ai connu les agences des Nations Unies, j'ai connu la MONUSCO, l'UNICEF, l'OIM.
Qu'est-ce que les agences des Nations Unies espèrent accomplir en impliquant le jeune? Carmen Ndomba et Joseph Makamba, membres du comité d'organisation de cette rencontre, répondent.
Alors ce que nous, on espère, c'est que en tant qu'UNICEF, nous espérons que les jeunes vont s'approprier cette question des droits de l'enfant, faire de cette information qu'on vient de donner leur information, et ils vont aller sensibiliser à la maison dans leur communauté sur ce que font les Nations Unies en faveur des droits de l'enfant.
On voulait vraiment amener les jeunes à prendre conscience de ce qu'ils sont, parce que quand quelqu'un est informé sur ses droits, ça va l'aider à pouvoir jouer un rôle pour impacter.
Au-delà de la sensibilisation, cette journée était l'occasion de créer un espace de dialogue entre le jeune et les représentants du système des Nations Unies.
Direction le Nord Kivu, où nous apprenons que des violents combats ont opposé dans la matinée de ce jeudi les rebelles du M23 aux groupes armés locaux sur deux fronts dans le territoire de Masisi. C'est notamment à Kikowa, près de Kalembe, ainsi qu'à Luama, dans la chefferie des Bachali. Selon plusieurs sources locales, la situation reste tendue à ce quatrième jour des combats dans cette zone. Récit des faits avec Bernardin Nyangi.
C'est depuis 5 heures locales que les groupes de volontaires pour la défense de la patrie VDP Ozalendo ont lancé des attaques simultanées sur les deux positions tenues par les rebelles du 1-23 RDF sur ces deux axes de la chefferie de Bachali. D'une part, ce sont les combattants Nyatura de Jean-Marie qui ont attaqué le 1-23 dans le village Luama sur la colline Mulindi, ouest de Mpati. Ce serait en représailles après les attaques des rebelles contre leur position hier mercredi à Kaira, indiquent nos sources. Elles ajoutent que les détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué de nouveaux mouvements de population de la zone. Par ailleurs, après qu'ils ont été repoussés de Kalembe, Kalongé et Yula hier, les combattants de NDC Rénové sont revenus à la charge, attaquant une position de couverture des rebelles 1-23 sur la colline Kikoa, entre Kalembe et Kashuga, tôt ce jeudi. Certaines sources indiquent que ces hommes de Mouissa Guidon aurait repoussé les quelques rebelles 1-23 et occupe à présent cette colline. Toutefois, une accalmie est observée à Kalembe et environ, occupée depuis hier par les rebelles 1-23. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Rendons-nous en Ituri. Plus de 100 véhicules sans plaque d'immatriculation sont toujours bloqués à l'état-major de la police à Bunia depuis environ un mois. Leurs propriétaires sont soumis au paiement de $10 américains par jour pour la garde de leur véhicule, en plus des amendes transactionnelles. C'est un reportage signé Sadiq Yaboubakar.
Les propriétaires des véhicules en fourrière se disent asphyxiés. Plus ils prennent du temps pour récupérer leur véhicule en fourrière, plus la police se frotte les mains. Une situation qui appauvrit davantage la population, estime l'ONG de défense des droits humains, Justice Plus. Cette ONG appelle le commissaire provincial de la police à alléger les dispositions sur la fourrière. Bienvenue Ketch et le secrétaire exécutif de Justice Plus.
Quelqu'un qui n'a pas l'argent aujourd'hui, imaginez-vous si après un mois il trouve l'argent pour acheter la plaque, déjà il doit encore payer $300 pour la garde seulement de son véhicule et à part ça il doit encore payer la pénalité par rapport à l'arrestation de son véhicule. Cette action, bien sûr, c'est salutaire, mais on ne doit pas encore trop presser l'accélérateur pour que les gens soient appauvris davantage.
Le commissaire provincial de la police, le général Ngoi Sengelo Akio n'est pas du même avis.
Quelqu'un qui est capable d'acheter un véhicule de $10,000, de $15,000, sera bien capable d'acheter les plaques qui coûtent $129, sera bien capable de payer les amendes transactionnelles. La pénalité doit faire mal. C'est ça.
Pour certains propriétaires de véhicules, les droits à payer à la police risquent de dépasser la valeur de leurs engins. Entre-temps, le bouclage continue. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mali. Aucune négociation en cours pour les soldats maliens et russes prisonniers du cadre stratégique permanent pour la défense du peuple, CSP. Cela fait plus d'un an pour certains qui sont retenus prisonniers par les rebelles du CSP, une vingtaine de soldats de l'armée malienne et deux mercenaires russes du groupe Wagner, capturés entre septembre 2023 et juillet 2024, sont toujours détenus quelque part dans le nord du Mali par les rebelles. Des approches ont été tentées en août dernier pour les mercenaires russes qui n'ont pas abouti. Pour les militaires maliens, rien de concret n'a été entrepris jusqu'ici.
L'invité.
Nous sommes dans la province du Maniema. La société minière Punia Kasese Mining, PKM, vient de réhabiliter l'aérodrome de Basenge dans la commune rurale de Punia. Information livrée par le directeur général adjoint de cette société, Serge Mouchigo, fait savoir que les travaux sont terminés et n'attend que les homologations de la RVA pour donner le feu vert. Il en parle dans cet entretien avec Florence Kizalunga.
Monsieur Serge Mouchigo, bonjour.
Bonjour Madame Lunga.
Vous êtes à quelle étape avec les travaux de réhabilitation de l'aérodrome des Basenge et plus précisément dans les territoires des Punia?
L'aérodrome est terminé. Donc on a réussi à faire 2 kilomètres d'asphalte. Tout est opérationnel. Nous sommes à l'étape d'attendre les homologations de la RVA.
Ah, c'est quoi les motivations des PKM en réhabilitant seulement l'aérodrome des Basenge?
D'abord, un sentiment de fierté, un sentiment très 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 engagé au niveau de la population parce que cet aéroport c'est déjà pas seulement pour le côté logistique de PKM mais c'est aussi pour donner un aéroport à la population de Punia. Comme vous savez, l'aéroport actuel est quand même dans un état très inquiétant. Alors, donc, il nous fallait avoir un aéroport moderne, vraiment dans des standards internationaux, capable d'accueillir même de gros avions, et nous sommes fiers d'avoir réalisé ça.
Alors, pourquoi seulement réhabiliter l'aérodrome de Basenge et laisser l'autre aérodrome de Kalombe-Niama?
Très bonne question. Je vous fais d'ailleurs, moi, je suis le DGA donc qui vient de la partie Sakima. Et l'année passée, j'ai accompagné Sakima à une convocation de l'organisme l'OACI. Parce que justement, l'année passée, il y a eu un avion qui a raté son atterrissage. Donc, nous avons commencé par l'aéroport à Punia, mais le prochain, on estime probablement dans une année et demie, on va attaquer celui des KCC comme ça, les deux aéroports seront opérationnels.
C'est-à-dire, votre objectif, c'est pour faciliter les transports de vos minerais?
Nous ne voyons pas ça comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est nous avons une vision de développement pour Punia. C'est-à-dire, nous voyons Punia comme tout un écosystème à mettre en place. Donc, nous voulons, oui, développer le secteur minier, mais nous voulons aussi permettre à ce que la ville, la cité de Punia devienne pratiquement le prochain Goma de demain. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait des aéroports, il faut qu'il y ait l'énergie, il faut qu'il y ait tout ça. Donc notre but, c'est de créer aussi cette infrastructure qui va appeler d'autres investisseurs, notamment nous-mêmes, parce que nous en dehors des mines, il y a quand même un groupe financier assez intéressant qui s'intéresse aussi à d'autres choses qu'on peut pouvoir développer à travers une logistique qui va permettre à cet essor.
Vous cherchez les développements de la ville de Punia. Pourquoi alors on n'est pas aussi pensé à la réhabilitation des routes?
Ben, la réhabilitation des routes, nous le faisons en même temps. C'est-à-dire, il faut commencer quelque part. Donc, nous avons commencé par l'aéroport pour une raison bien simple. Parce qu'il y a énormément de matériel que nous devons faire venir sur place, que nous avons justement pas pu faire venir par voie de route. Alors, avec l'aéroport, les autres engins vont arriver et nous allons continuer au niveau des routes parce que de Pougna à Kassessé, il y a 56 kilomètres déjà qu'on a réussi à réhabiliter sur les 135 kilomètres qui nous séparent des Kassessé. Mais nous allons en même temps continuer et finir, relier tous les 135 kilomètres et effectivement d'autres rues, même au niveau de Pougna Centre, nous avons vraiment l'intention d'asphalter un peu partout et de créer des routes pour désengorger pratiquement tout.
Monsieur Serge, combien vous a coûté cet asphalte de l'aérodrome des Bassengues, si ce n'est pas un secret?
Ben, disons, à cette étape, je n'ai pas les chiffres exacts pour la simple raison qu'il y a une division spécifique qui s'en occupe. Mais je vous promets de vous revenir là-dessus pour vous donner l'information avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie.
Alors, comment évoluent maintenant les activités des PKM dans cette ville de Pougna?
Donc, la première étape, la condition pour pouvoir avancer, c'était l'aéroport. Maintenant que c'est fait, nous sommes en pourparlers avec Sakima pour commencer à réhabiliter le barrage de Belia, la centrale hydroélectrique de Belia justement. Parce que, bon, comme vous le savez peut-être, mais au niveau de Pougna, il y a deux turbines. Il y en a une qui fonctionne à moitié, qui peut lâcher n'importe quand. Donc nous venons pour pouvoir booster ça, aller jusqu'à au moins 9 mégawatts de production, ce qui va pouvoir donner un bon courant au niveau de Pougna. À ce moment-là, pratiquement en même temps, nous commençons l'industrialisation, mais une fois que le barrage sera opérationnel, le fonctionnement en plein régime de nos usines vont commencer.
Monsieur Serge Amouchiko, je vous remercie.
Merci, merci. C'était un privilège de pouvoir parler à Radio Okapi. Je vous remercie.
Et c'est par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.